Alors, donc nous sommes merci à tous déjà d'être venus et nous sommes ici pour parler le thème c'est l'auteur de science-fiction est-il un historien du futur. Pour parler de cela, donc nous avons Jeanne Debat, donc auteur de science-fiction.
Jeanne Debat, s'il te plaît.
Jeanne Debat.
Merci.
Auteur de science-fiction, notamment récemment de Plagueurs à la Talente. Donc Sylvie Alouche, universitaire chargée de recherche à l'université de Bristol, qui travaille notamment sur l'amélioration humaine et les biotechnologies. Et donc Hugo Bellagamba, auteur de science-fiction, qui a reçu le prix Utopia de l'année dernière pour Tancred. Donc merci à vous trois d'être ici. Donc l'auteur de science-fiction est-il un historien du futur? Sa capacité de se plonger dans le futur et d'analyser les sociétés, les technologies qui possiblement peuvent arriver, nous pousse à le penser comme quelqu'un qui va rapporter des faits possibles dans le futur. Mais l'historien, par définition, rapporte des faits plutôt que des possibilités. Et donc là est toute l'ambiguïté. Est-ce que l'auteur de science-fiction, dans son œuvre de prospective, rapporte-t-il des faits ou des faits possibles? Et est-ce que ces faits possibles doivent être pris en compte dans notre analyse du présent? Quelqu'un veut commencer par...
Alors merci Yann d'abord, merci à tous d'être là. Alors sur les faits, c'est ça, la question sur les faits. Est-ce que l'absence de faits réels disqualifie l'auteur de science-fiction comme historien du futur? Alors hier on a déjà parlé pas mal de ça, mais je pense que c'est pas le même public en plus, c'est pas forcément les gens qui étaient là hier. Donc déjà faire de l'histoire, c'est comprendre le sens de l'événement, de ce que c'est qu'un événement, donc un fait historique. Bon, je vais pas revenir sur cette définition pour l'instant, mais je pense que à partir du moment où on parle d'histoire du futur, on est dans quelque chose de toute façon qui a trait à l'imaginaire, à la conjoncture, à l'hypothèse. Donc pour moi, l'absence de faits concrétisés, enfin de faits au sens tout simplement du terme, ne disqualifie pas l'auteur de science-fiction comme historien. Dans le sens où un historien, c'est pas quelqu'un qui identifie des faits, c'est pas les historiens qui vont identifier le fait historique, c'est les historiens qui vont discuter de la portée du fait historique. C'est-à-dire que les historiens ne sont pas des inventeurs de faits, ils vont débattre, ils vont interpréter, ils vont penser le fait historique. Et après leurs interprétations, plus ou moins avec leur impact sur la société ou sur le corps de universitaire des historiens ou littéraires ou autres, leur interprétation va prévaloir ou pas. Par exemple, Marc Bloch, lorsque Marc Bloch parle de la féodalité dans les années avant la guerre, Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il évoque le fief, lorsqu'il évoque la vassalité, il ne crée pas le fait historique, il se contente simplement d'en donner une certaine lecture qui a prévalu pendant très longtemps. Donc à partir de ce point de départ, on peut tout à fait considérer que l'auteur de science-fiction s'intéressant à des hypothèses, qui sont donc des faits possibles comme tu l'as défini, on va dire ce serait possible de, fait le même travail, c'est-à-dire qu'il va prendre l'hypothèse que par exemple, je ne sais pas moi, pour prendre quelque chose de totalement aujourd'hui non scientifique, mais c'est rigolo d'en parler, les pouvoirs mentaux, les pouvoirs psy par exemple. Un historien, un auteur de science-fiction va prendre les pouvoirs psy comme un fait possible et il va interpréter, il va réfléchir sur l'impact de ces pouvoirs psy dans la société qu'il va décrire. Donc c'est une interprétation, une lecture qu'il va faire et à ce titre, il peut tout à fait jouer le rôle d'historien. Après, l'autre manière de voir les choses, c'est comment l'histoire sert de source d'inspiration à l'auteur de science-fiction. Et là, c'est à mon sens, enfin je ne sais pas ce que dira Jeanne et ce que dira Sylvie, mais à mon sens, l'histoire est plus encore que la science, la source principale d'inspiration pour les auteurs de science-fiction. Parce que, avec des exemples multiples et variés, mais lorsqu'on crée des sociétés imaginaires du futur, on va souvent se nourrir de ce qui s'est passé dans le passé, et on fait de la réinterprétation, on réinvente, réinventer au sens de redécouvrir le passé. Voilà.
J'ai le sentiment, en tout cas, que l'utilisation des civilisations anciennes est plutôt le fait des auteurs de fantasy que de science-fiction. Si on prend un exemple aussi simple que David Eddings dans la Belle Gariade, je crois, mais surtout dans la Malorée, on se retrouve avec les Spartiates, la Chine, les Juifs, le peuple juif. Donc réinventer et réutiliser dans une perspective de fantasy. Personnellement, je ne réfléchis pas à ça quand j'écris, mais j'ai l'impression que je ne suis plutôt, s'il m'arrive d'être historienne, je suis historienne du présent. C'est-à-dire que je regarde comment est le monde là, et je fais un pas de côté qui a l'air de partir vers le futur. Mais en fait, c'est un pas de côté. Et je regarde tel fait technologique, sociologique, psychologique, et je pousse le curseur un peu plus haut qu'il n'est dans l'actualité perceptible. Et je mesure, enfin j'essaie de mesurer l'impact de cette hausse de curseur. Et au final, j'ai parfois l'impression que je ne vais jamais assez loin, que le réel, en fait, me dépasse largement.
Je pense qu'on peut distinguer, enfin, on peut faire tout un tas de partitions différentes, mais on peut vraisemblablement distinguer, disons, deux types de science-fiction qui parlent du futur. Et je rappelle, à titre de parenthèse, il y a déjà eu un certain nombre de tables rondes au sujet d'un sous-genre de la science-fiction qui est l'Uchronie, qui ne parle pas du futur à proprement parler. Mais si on se concentre sur le vaste champ de la science-fiction qui se concentre sur la question du futur, il y a quand même, disons, deux pôles. Il y a le pôle des histoires de science-fiction qui se passent à relativement court terme, par rapport à notre présent. Donc je pense que Jeanne se situe plutôt dans cette perspective-là.
Oui, l'anticipation proche, oui.
Et il y a des histoires de science-fiction dont le modèle intéressant pour notre sujet est celui du cycle de fondation d'Asimov, qui prétend donc donner une vision du futur de l'humanité qui s'étend dans un futur lointain. Donc il y a aussi l'exemple d'Arthur C. Clarke, il y a l'exemple de Heinlein, hein, l'histoire du futur d'Heinlein. Et je pense que ce serait sans doute moins vrai pour le premier genre de science-fiction, mais pour ce second genre de science-fiction, je pense que ce qui est intéressant pour l'historien, c'est que la science-fiction se pose la question du devenir de l'humanité. Hein, qu'est-ce que c'est qu'être humain et qu'est-ce qu'on va tous devenir avec cette technologie qui change notre rapport au monde ? Et donc cette idée d'en fait la science-fiction qui dépeint le futur ne dépeint jamais le futur à partir d'un point zéro qui serait notre présent, mais c'est plutôt une peinture de l'ensemble de l'histoire de l'humanité, des origines à nos jours, et il y a l'idée qu'il faut essayer d'imaginer comment l'humanité va poursuivre sur sa lancée.
Je complète en fait la typologie qu'elle vous a proposée, Sylvie, qui est tout à fait bonne. Et juste une petite remarque, c'est vrai que les mythologies, c'est vrai que les corpus mythologiques, on va dire la haute antiquité, souvent intéressent plus les auteurs de fantasy. Mais les événements politiques de l'antiquité nourrissent les auteurs de science-fiction tout autant. Hein,
Oui. Non, mais c'était voilà. De façon marquée.
Oui, c'est
vrai. Ce sont surtout les auteurs de fantasy. Tu parlais d'Asimov tout à l'heure et de Fondation. Il y a une, pour moi, alors je vais dire une hérésie, il y a pour moi une part de fantaisie dans les univers d'auteurs qui s'intéressent à un futur extrêmement lointain, une part mythologique très forte. que ce soit chez Asimov, mais aussi chez Ian Banks, par exemple, le cycle de la culture est très représentatif de ce genre de choses. Malgré tout, peut-être que la différence entre un écrivain de science-fiction tel que Banks ou même Asimov et un auteur de fantasy comme Rosfus, Le Nom du Vent, qui est une pure merveille, c'est que Asimov et Banks vont utiliser également ces faits réels, présents, pousser les curseurs que moi j'utilise en anticipation proche, ce que ne fera pas forcément un auteur de fantasy. Enfin, c'est comme ça que je sens les choses, parce que je ne théorise pas ma science-fiction.
Oui, tout à fait. Et pour continuer dans ça, en fait, l'auteur de science-fiction s'intéresserait plutôt, et là du coup, ça, Sylvie va sans doute rebondir aussi, à l'histoire des idées, à l'histoire des mentalités, plus que finalement à l'histoire au sens strict du terme. C'est-à-dire que souvent, les auteurs de science-fiction vont embrasser un patrimoine culturel et le transformer, le métaboliser dans leur fiction. Alors, pour prendre des histoires du futur, on a cité Heinlein, on a cité Asimov, on a cité Ian Banks. Il y en a tout un tas d'autres.
Moi, il y a que j'aime. Van Vogt,
ouais. J'aime bien, moi, aussi Gordon Smith.
Ah oui.
Gordon Smith, je vous donne cet exemple-là. C'est Les Seigneurs de l'instrumentalité. C'est un très, 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 très beau cycle qui est disponible aujourd'hui en quelques tomes avec beaucoup de nouvelles, un seul roman. Et lui, il était, Gordon Smith, son vrai nom, c'est Paul Lindbarger, et c'était un diplomate américain en Asie du Sud-Est. Dans les années 50 notamment, et toute cette culture se ressent dans ces pages, c'est-à-dire toute cette imprégnation, cette rencontre entre une certaine culture de l'Asie du Sud-Est et en même temps l'Occident et la vision américaine du monde se ressent. Et en plus, il y a une sorte de parcours assez pas christique, mais presque, c'est-à-dire que lui aussi, il est imprégné par le christianisme, par exemple, et donc il va inspirer. Il va insuffler plutôt dans Les Seigneurs de l'instrumentalité des éléments de la pensée chrétienne. Voilà. C'est un auteur qui le fait en particulier. D'autres auteurs font ça sur d'autres corpus idéologiques ou religieux. Lui, en particulier, il y a cette imprégnation-là. Et donc, finalement, pour moi, les explorateurs... finalement, ce serait moins des historiens au sens strict que des assistants de l'histoire, c'est-à-dire... pas des historiens avec une méthode historique précise et fermée, mais plutôt des explorateurs des possibilités autour de l'histoire. Et notamment, peut-être plus encore que l'histoire événementielle, ou notamment autour de l'histoire des mentalités. Voilà. Et finalement, si vous regardez les histoires du futur qui ont été écrites, elles sont fortement imprégnées du contexte culturel dans lequel l'auteur s'insère. Par exemple, hein, on en citait hier... On en a beaucoup parlé, en deux mots, Robert Heinlein, dans son Histoire du futur, réinvente, redécouvre très grandement les grandes valeurs de l'histoire de la démocratie américaine.
Oui, on en parlait hier et tu disais très justement que si on prenait tout un corpus de livres de science-fiction d'un point de vue historique, il rendait tout à fait compte de l'état présent au moment où le livre a été écrit. Qu'au fond, c'était un témoignage historique de l'état des mentalités à ce point précis. Voilà.
Alors, ça me permet justement de reprendre... Je voudrais revenir sur la notion de, sur la notion de fait que tu as évoqué. Je trouve que tu as dépeint le rapport de l'historien au fait de façon peut-être un peu paradoxale ou étrange, parce qu'il me semble quand même que non seulement l'historien se sert de faits, mais il découvre, alors il n'en invente pas, enfin, mais il découvre des faits. Et y a, si on tombe soudainement, comme ça arrive parfois, sur, je ne sais pas, un nouveau morceau de caillou dans une ruine, ça change l'histoire qu'on a et si tu me permets de continuer, alors que, donc, en histoire, il y a des faits concrets, qui peuvent être des faits matériels ou des faits plus spirituels, si c'est des écrits ou des idées, des choses comme ça, des faits qui doivent être de toute façon reconstruits pour en comprendre le sens. Alors si on compare, si on essaye de tenir en fait la métaphore d'historien du futur qui est le point de départ de cette discussion, on pourrait dire on ne peut pas véritablement parler dans le même sens d'historien, l'historien du futur, puisque l'auteur de science-fiction comme historien du futur n'a pas de fait au même titre que l'historien, du vrai historien. Alors à ça, on peut répondre deux choses. Un jour, il aura des faits, puisque le temps passe. Et prenons l'exemple de 1984, hein, de George Orwell. Le temps est passé et nous avons pu voir, si on prend au sérieux cette idée d'historien du futur, qui s'était trompé au premier degré, en tout cas de 1984, pas au sens métaphorique, bien sûr. Donc il y a cette falsifiabilité de l'événement qui est quand même possible si on prend au sérieux cette histoire d'historicité du futur. Il y a aussi, je pense, un autre élément qui est commun à l'histoire réelle et à l'histoire de l'auteur de science-fiction, c'est la cohérence, enfin l'exigence de cohérence de l'univers qui est construit et le principe de causalité. Donc en fait, il y a quand même beaucoup de choses. Quand l'auteur de science-fiction se fait historien du futur, qui sont finalement possiblement communes, à savoir la dimension du langage, la dimension narrative, et dans l'usage de cette dimension narrative, la nécessité de construire un système de causalité qui soit cohérent. Et finalement, la seule chose qui manque, c'est le fait passé, et une deuxième chose, je pense que tu l'as suggéré en fait tout au début, mais je pense qu'il faut peut-être le dire de façon plus explicite, même si c'est évident. Le passé, le vrai passé est unique, et la seule façon raisonnable par laquelle l'auteur de science-fiction peut se prétendre historien du futur, c'est en manifestant de façon au moins implicite le fait qu'il ne construit qu'un futur possible. Et qu'il n'a pas la prétention de dire ce qu'il va arriver. Ou en tout cas, si personnellement il a cette prétention, constitutivement, la science-fiction ne peut dire que le possible et pas le réel.
Excuse-moi, je te redonne la parole. Mais quelque part, c'est peut-être un non-historien du futur, parce que l'auteur de science-fiction, genre Orwell, il n'a pas tellement envie que 1984 arrive. Donc peut-être qu'il rêve que son livre ferme la porte, justement, à ce monde dont il parle. Et voilà.
Alors, c'est pour rebondir sur les deux remarques, ça va, c'est pas trop dur. Désolé. Mais pour rebondir sur les deux remarques, alors, non-historien, c'est vrai, parce que souvent, il veut conjurer le futur, il veut empêcher que le futur... Mais par contre, si on remonte aux racines de la science-fiction, alors à l'époque où elle s'appelait pas encore science-fiction, comme disait Francis Valéry qui était assis là hier, là, par contre, il veut construire le futur, c'est-à-dire qu'il y a toute une veine de l'utopie futuriste au XVIIIe siècle, on va dire, avec Louis-Sébastien Mercier, l'an 2440, mais aussi, par exemple, Condorcet, hein, avec la dixième époque des progrès, du tableau des progrès de l'esprit humain, qui veulent construire un futur scientifique, un futur meilleur par la science. Ça commence au XVIIIe siècle, ça continue au XIXe siècle avec les utopies scientistes. Et là, effectivement, ils veulent construire un futur et non pas donc être vraiment... comme s'ils pouvaient dire, effectivement, être les historiens, avoir possédé déjà, en fait, et je reviens sur ce que disait Sylvie, sur les faits, en fait, il y a un seul mot qu'elle n'a pas prononcé, et tu l'as extrêmement dit de façon plus claire que moi, mais il y a quelque chose qu'elle n'a pas dit, c'est le mot archive. Effectivement, un historien travaille à partir d'archives. Et donc, il n'invente pas les faits, mais il découvre ou il va explorer... il va mettre en valeur des archives qui parfois n'ont jamais encore été utilisées. En ce sens, tu as raison de rappeler qu'il découvre des faits aussi. Pas au sens où il les invente, même si juridiquement ça revient à la même chose. Quand des archives n'ont pas été... quand on ouvre de nouvelles archives, eh bien le rôle de l'historien premier, il ne crée pas ces faits, puisque ce sont des archives qui existaient déjà, mais il va identifier dans cette masse archivistique les faits les plus pertinents, ceux qui ont le plus... de rôle et d'utilité pour expliquer le présent. Et finalement, l'historien du futur que pourrait être l'auteur de science-fiction serait celui qui constituerait en avance, avant que l'événement n'arrive, les possibles archives du futur. Et donc il identifierait non pas des archives dans une masse documentaire, non pas les éléments clés de ces archives-là, mais les pistes les plus importantes, les possibilités les plus probables de ce qui va être plus tard les archives du futur. Et donc finalement, on est assez dans cette similitude. C'est aussi, d'une certaine manière, un travail d'abord très pénible d'approfondissement d'une masse documentaire énorme. Et ça, c'est vrai que souvent, l'auteur de science-fiction, tout comme le chercheur. C'est une certaine manière un chercheur, sauf que sa particularité à lui, c'est de chercher sur un corpus qui n'existe pas, puisqu'il se le crée lui-même.
Et, oui, alors pour rebondir sur ce que disait Jeanne, il y a parmi les œuvres qu'on a déjà citées, et une autre à laquelle je pense, disons certains auteurs de science-fiction qui écrivent ce qu'on peut appeler des histoires du futur s'occupent eux-mêmes de la question de l'histoire. Qu'est-ce que c'est que faire de l'histoire ? Donc il y a le premier exemple qu'on a déjà cité, qui est donc le cycle de fondation d'Asimov. C'est extrêmement intéressant puisqu'en fait la base théorique de tout ce cycle, c'est une réflexion sur l'histoire, hein, qui s'appelle donc, enfin, Isaac Asimov imagine une science qui s'appelle la psycho-histoire et qui suppose que sur les grands nombres, hein, en généralisant ce qu'on sait faire avec de la thermodynamique aux populations humaines, sur les grands nombres, on a la possibilité de prédire l'avenir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il appelle ça la psycho-histoire. Et il y a donc dans tout, je pense que un grand nombre d'entre vous connaissez cette œuvre, mais peut-être pas tout le monde, hein, sur les 5 ou 6 volumes qui constituent ce cycle, il y a justement toute une réflexion sur le rôle que doit jouer l'une des parties de la Fondation en prévenant, en savoir des choses sans intervenir ou en intervenant dans le cours, mais de façon qui soit admissible et qui ne change pas le cours de l'histoire parce que, enfin, bref, c'est pas très clair ce que je dis. Il y a toute la problématique de la prophétie autoréalisatrice qui est assumée dans le roman de façon extrêmement intéressante. Et avant de laisser la parole à Jeanne, qui a l'air d'avoir envie de dire quelque chose, je voudrais juste donner un autre exemple moins connu mais tout aussi intéressant, qui est, alors je crois malheureusement, un livre qui n'est pas traduit en français, qui est le cycle de l'immortalité de Brian Stableford dans le troisième volume qui s'appelle Fountains of Youth, donc les fontaines de la jeunesse. En fait, ce livre est l'autobiographie d'un historien immortel qui s'est donné pour tâche de raconter l'histoire de la mort depuis l'origine de l'humanité. Et c'est un livre extrêmement ardu en fait en termes de lecture, parce que c'est à la fois, bon, il y a des éléments autobiographiques, mais il y a aussi toute une réflexion authentiquement épistémologique sur qu'est-ce que pourrait devenir l'histoire dans le futur.
Dans cet ordre d'idées, tu as également Efelein, qui est paru il y a 2 ans chez Ailleurs et Demain, où deux historiens du futur justement. Parce que ça doit se... Il y a 2 lignes temporelles dans ce roman. Une qui est dans notre large futur, à 100 ans près, je crois, à peu près. Parce que mes souvenirs sont hélas assez flous de la période future de ce roman, parce que ce qui m'intéressait, c'était le passé, en fait. Enfin, bon, bref, je vous la fais simple. C'est donc une historienne qui découvre une anomalie dans les peuplements de villages pendant la guerre de 30 ans en Allemagne. Donc pendant cette guerre, l'ensemble de la population meurt pour une raison inconnue, mais qui n'est pas inquiétante vu qu'à ce moment-là, il y a des épidémies de peste noire qui déciment la population européenne. Et elle constate... En étudiant les cartes, les archives, etc., que ce village n'est jamais repeuplé après. Et ça n'est pas logique dans la science historique qu'elle utilise, que cet endroit particulier qui présente tous les avantages pour accueillir une population humaine en parfaite santé, ça n'est pas logique que ça ne se soit pas repeuplé. Donc elle va s'interroger pendant toute cette partie du roman sur pourquoi ce village n'a jamais été repeuplé. Et en fait, la réponse est assez extraordinaire et elle nous est donnée par la 2e ligne du roman qui se passe pendant la guerre de 30 ans, au moment où le village d'Effelheim connaît l'événement extraordinaire, le fait historique extraordinaire qui va le rendre unique et qui va le faire disparaître. Et tout le roman est autour de ces recherches menées par cette scientifique. Sa vie qui se construit autour de cette histoire passée 500 ou 600 ans auparavant. Et là, clairement, l'écrivain de science-fiction qui a écrit ce roman a pensé l'histoire et s'est fait à la fois historien du futur et historien du passé.
Bah, du coup, pour rebondir un peu, sur le côté de prophétie auto-réalisatrice, on avait une conférence hier sur le mythe et la SF, sur où James Morrow et notamment James Morrow et Pierre Bordage parlaient de recréer réécrire des mythes dans une optique de toujours réactualiser des archétypes de l'humanité. Et en ce sens, ça va, en tant que réécrivain de mythes, en tant qu'actualisateur d'archétypes, il court-circuite le travail de l'écrivain, de l'historien, puisque il emmène les faits de l'histoire réelle sur une certaine voie. Et donc ça nous mène sur un autre côté où s'il est écrivain, actualisateur de mythes, il prend sur lui la part divine de l'homme, ou essayer de trouver une part divine de l'homme dans son côté créateur, par exemple sur les biotechnologies, sur les robots.
Je savais bien que tu allais finir par être métaphysique, toi.
Mais je t'en prie, critique cela. Si...
Non, je t'écoutais, j'étais en train de penser en fait à la missionaria protectiva dans Dune. Les révérends de mère Bene Gesserit, je ne sais pas si ça parle à la plupart du genre de l'assistance, qui levez la main ceux qui n'ont pas lu Dune. Ah, quand même, donc il va falloir que j'explique un peu. Dans ce... Non. Non, je ne vais même pas essayer. Mais dans ce roman, il y a un ordre de femmes qui protège ses arrières, on va dire, en implantant des mythes sur les planètes de l'univers. Et ce sont des mythes qui sont listés dans ce qu'on appelle la missionaria protectiva. Et en gros, ça donne ça. Un jour, une révérende mère arrivera et elle sauvera le peuple de la planète. Ce qui assure... C'est totalement cynique comme manipulation de la mythologie. Elle n'envisage absolument pas de délivrer la planète de quoi que ce soit. Elles ne savent même pas s'il y a quelle matière à délivrance. Le truc, c'est que leur représentante soit toujours bien accueillie par les peuples en présence. La manipulation du mythe donc par les révérends de mère est assez intéressante et elle est de l'ordre de l'écriture, je trouve. Et je trouvais que ça collait avec ce que tu disais.
Non, mais d'ailleurs, Dune, c'est vrai que c'est un exemple qu'on n'avait pas encore cité, alors que c'est un exemple très important, parce qu'il y a Irène Langlais, donc, qui est une universitaire spécialiste de science-fiction, qui n'est pas là cette année, mais qui explique très bien aussi à la suite de Richard Saint-Gelais, qui est un universitaire québécois, comment Dune a quasiment inventé en fait, les archives, les fausses archives historiques. C'est-à-dire que ce qui est tout à fait remarquable dans Dune et extrêmement bien réussi, c'est qu'en épigraphe de chaque chapitre, il y a des extraits d'archives de l'Encyclopédia Galactica, je crois, et qui nous donne, donc il y a un jeu extrêmement intéressant sur le temps qui est produit, puisque ces extraits donnent avec une vue venant d'un futur encore postérieur, une vision des événements qui sont décrits dans le roman, une vision comme si c'était de l'histoire. Hein, et donc, d'un point de vue de littéraire, de la rhétorique littéraire, ce qu'expliquent Irène Langlais et Richard Saint-Gelais, c'est que ça permet d'asseoir en fait la dimension, alors là pour le coup quasi mythique, légendaire des événements qui nous sont rapportés. Et il y a aussi donc toute cette réflexion là, donc plutôt intradiégétique, sur le rapport de l'humanité à l'histoire. Mais je pense que de toute façon, en fait, c'est une hypothèse que j'émets, dès lors qu'un auteur s'engage à dresser à grands traits une vision de l'humanité dans sa globalité, éventuellement dans ses contacts avec des extraterrestres, il est obligé, comme tu le disais, d'avoir une réflexion sur l'histoire en plus de s'en inspirer.
D'ailleurs, un des personnages secondaires de Dune se fait historien. La princesse Irulan raconte l'histoire pendant les trois premiers volumes, il y a à peu près, oui, voilà.
Pour compléter ce qui vous a été dit, c'est vrai que finalement, parler du mythe, hein, tu as tout à fait raison, ça fait partie de la question, parce que si je m'intéresse, moi, enfin, ce qui m'intéresse plus, c'est l'histoire politique. Dans l'histoire des études politiques, enfin, dans les études politiques, on a prétendu souvent séparer la pensée mythique de la pensée politique. Et par exemple, à la faculté, aujourd'hui encore, quand on fait de l'histoire des idées politiques, on veut commencer l'histoire des idées politiques à Platon, à la cité, parce qu'on considère qu'avant, il n'y a pas pensée politique, puisque polis, c'est la cité en grec, donc tant qu'il n'y a pas de cité, il n'y a pas de pensée politique. Il y a certains, même un peu plus stricts encore, qui commencent qu'à Machiavel ou à Jean Bodin au XVIe siècle avant. Mais en réalité, c'est maladroit de faire ça, parce que la pensée mythique est politique déjà. C'est-à-dire qu'il y a la frontière est extrêmement poreuse entre les deux. Chez les Grecs, on voit très bien que si on remonte à la période de la Grèce archaïque, chez Homère ou chez Hésiode, chez les grands poètes grecs, chez les grands premiers auteurs grecs, on trouve de la politique. On trouve des royaumes, on trouve, quand il décrit le royaume d'Ithaque de Ulysse, on trouve de la politique. Quand on voit une assemblée de sages aux portes devant les murailles de Troie qui portent un jugement, c'est de la justice et c'est de la politique. Et donc la pensée mythique porte en elle extrêmement de choses politiques. Et que finalement, renoncer au mythe, ce serait s'amputer de quelque chose d'extrêmement important, puisque c'est dans le mythe que se forge l'identité politique d'un peuple. Et du coup, l'auteur de science-fiction, je termine, l'auteur de science-fiction, créant des mythes du futur, se réapproprie aussi cette partie-là du travail de l'historien. Et je trouve que du coup, c'est bien, ça fait sens. Ça permet de peut-être retrouver cette communication entre le mythe et le politique à travers l'histoire du futur.
On parlait de l'Empire romain tout à l'heure. Les Romains ont été des grands utilisateurs de mythes à des fins politiques. L'Énéide est un parfait exemple de la chose. Lorsque cette histoire est écrite, elle prétend raconter le départ d'Énée de Troie et la fondation de Rome. Elle ne sert qu'à une chose, finalement, c'est légitimer la lignée julienne. Et en rappelant aux Romains que ce sont des patresses, qu'ils descendent des fondateurs et qu'ils ont deux dieux dans leur, ou trois, je ne sais plus, dans leur ascendance. Donc à partir de là, c'est évident qu'on ne va pas lutter contre ces impérators. Ça a été réutilisé avec la Henriade plus tard, d'ailleurs, ce genre de choses. Je te laisse la parole.
Juste attends deux secondes pour réagir et puis je te laisse parler. C'est évident, d'autant que l'historien finalement fait beaucoup de fiction hein, aussi. Je veux dire,
dans les mêmes.
Quand on prétend faire de l'histoire, souvent on veut légitimer quelque chose hein, aussi. Hein. Il y a des tas de textes historiques qui expriment plus une légitimation politique de quelque chose. Hein. On a parlé de Renouvier, on avait dit qu'on ferait pas du chrony, donc voilà. Mais beaucoup d'historiens ont derrière aussi une volonté de légitimer ou de délégitimer quelque chose, c'est évident.
On avait dit qu'on ne parlait pas d'Uchronie ?
Je crois qu'on a dit au début qu'on ne parlait pas d'Uchronie, non ?
Ah bon ?
Alors à nouveau, Hugo, j'aurais peut-être une petite objection à faire par rapport à ce que tu as dit. Parce qu'il me semble quand même que ce qu'apporte justement Platon, à la différence d'Homère ou d'Hésiode, c'est la dimension utopique, c'est la dimension de qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent. Alors que s'il y a effectivement chez les écrivains plus anciens l'idée de décrire comment les choses fonctionnent, le geste majeur qu'introduit Platon, notamment dans la République, c'est de dire comment on pourrait faire encore mieux. Et je pense que c'est là où, enfin, on passe d'une politique, disons, purement descriptive et qui fait qu'entériner des valeurs qui existent déjà à une politique constructive.
Oui, mais enfin, tu peux pas dire que Platon n'utilise pas le mythe, malgré tout. Il en propose un autre, et de façon quasiment cynique, là aussi. Pratiquement aussi cynique que dans l'Énéide ou la Missionaria Protectiva. Même si c'est pour une bonne cause, entre guillemets. Hein.
pour te répondre, on se répond hein, quand même, désolé. Mais pour te répondre, alors, un, évidemment, je ne veux pas dire que Platon et les auteurs avant Platon, c'est la même chose, c'est pas du tout pareil. Effectivement, Platon marque bien, elle a parfaitement raison, et d'ailleurs, c'est ce que j'enseigne moi aussi, marque bien un moment premier. Simplement, ce moment premier ne doit pas occulter les éléments constitutifs dont se sert Platon, qui ont déjà été dégagés à travers des poèmes, donc à travers des textes non politiques, au sens premier du terme, dans des textes antérieurs. Il y a par exemple aussi Hérodote. Lorsqu'on lit l'enquête ou l'histoire d'Hérodote, on trouve déjà une typologie des formes des régimes politiques. Lorsqu'il fait la discussion perse sur le meilleur régime en 522, lorsqu'il parle de ça dans l'enquête ou dans l'histoire, on voit bien que les sages perses à la recherche d'un régime politique interrogent la différence entre démocratie, aristocratie et monarchie. Ce que fait Platon après, ce que fait également et ce que fera Aristote après. Donc, effectivement, il est évidemment que la ligne directrice claire, c'est de dire que la politique commence à Platon. Mais il n'empêche que dans la pensée mythique antérieure, il y a tout un tas d'éléments constitutifs dont d'ailleurs Platon a parfaitement su s'emparer. Ouais.
Pour revenir peut-être un petit peu au sujet histoire du futur, tout en gardant le cap avec Platon, je pense que ce qui est intéressant dans la République de Platon, c'est cette espèce d'incertitude qu'il y a en fait sur le plan du statut du discours, parce que le futur est utilisé. Enfin, on ne sait pas trop où ça varie. Est-ce qu'il est en train de décrire ce qui va arriver à la cité quand elle va se transformer en cité idéale, ou est-ce qu'il est en train de décrire ce qui devrait arriver? Et je pense que l'idée première, même si finalement ça évolue, parce qu'il commence par décrire ce qui s'est passé, comment les premières cités se sont formées, puis progressivement, il en arrive à décrire dans une forme de continuité historique ce qui va arriver, mais nous on le lit en fait plutôt comme ce qui devrait arriver. Alors cela dit,
qui aurait dû arriver, peut-être.
Non, parce que je pense que c'est un programme politique quand même à la base.
Tout à fait.
C'est un programme politique contre la démocratie qui est responsable de la mort de Socrate. Donc ça c'est clair. Mais j'aurais beaucoup à te répondre aussi hein, sur ça, parce que c'est marrant, parce que toi en philosophie pure et moi simplement en histoire des politiques, on fait des lectures de Platon qui sont pas tout à fait les mêmes. Mais je fais pas de la philosophie pure. Hein, j'ai pas...
Et nous en grec, on fait des lectures de Platon qui sont pas du tout les mêmes non plus.
Voilà. Mais Platon était-il un auteur de science-fiction?
Là, j'ai une autre idée pour revenir vraiment dans le sujet.
En fait, Platon venait du futur et... Non, bon, laisse.
Non, mais il a été enlevé par les extraterrestres à la fin. Maintenant, il fait des hamburgers avec Elvis Presley. La théorie du complot. C'est la théorie du complot. C'est vrai, on n'a pas parlé de la théorie du complot.
Alors, pour revenir vraiment au sujet, et pour faire référence à la typologie initiale que je proposais, qui n'est pas une grande originalité, entre histoire du futur lointain et histoire du futur proche... Je pense que ce qui est quand même intéressant, c'est que les écrivains de science-fiction de futur proche ont quand même, je crois, pour, disons, la majeure partie d'entre eux, on ne peut jamais faire des généralités totalisantes, un souci d'avoir une raisonnabilité prédictive. C'est-à-dire que quand le monde évolue, il y a un certain type de science-fiction, plus ou moins à moyen terme, qui ne peut plus s'écrire. Et ça, je pense que c'est un aspect intéressant. Il y a même des auteurs, je pense que c'est Dick peut-être, hein, qui peuvent... je pense qu'il y a au moins un exemple célèbre de Dick disant « Ah ben, je me suis trompée ». Voilà, donc il y a quand même cette idée qu'on a conscience, quand on est un auteur de science-fiction et qui parle du futur, de faire de la fiction et de ne pas être dans la prédiction. Mais il y a quand même le souci... d'essayer de construire quelque chose qui pourrait peut-être arriver, qui a un certain degré de vraisemblance.
Mais au final, ça revient à ce qu'on disait au début, qui est qu'au fond, on fait de l'histoire du présent, et que, par exemple, il y a toute une SF des années 40 qui envisage le monde en bipartisme avec les Russes en face. Cette SF-là s'est entre guillemets trompée, mais est-ce que c'est dans ces termes, est-ce que c'est en termes d'erreur que
n'empêche qu'on n'écrirait plus ça maintenant.
Non, on
si on le fait, c'est de façon uchronique.
Mais c'est ça qui
ou parodique. Ouais. Et la parodie, c'est bien aussi. Hein.
Et c'est ça qui est intéressant, parce que finalement, pour de tout ce qu'on a dit là, finalement, on pourrait inverser le point de vue, mais le regarder d'une autre manière, c'est-à-dire l'auteur de science-fiction n'est peut-être pas complètement un historien du futur, mais ce qu'il écrit pourrait être utilisé par les historiens du futur pour, comme révélateur des préoccupations et des représentations du présent de l'auteur. C'est-à-dire, effectivement, il y a une obsolescence programmée des textes de science-fiction, c'est inévitable, mais ils seront toujours utiles, parce que si les historiens des mentalités, dans 2 siècles, ou dans 50 ans, ou 70 ans, s'intéressent et veulent savoir quelles étaient les représentations ou les soucis majeurs, les enjeux principaux d'une société à un moment donné, et qui lisent comme source parmi tant d'autres hein, des romans de science-fiction, eh bien ils y découvriront ce qui préoccupait les gens. Et ce qui préoccupait en particulier l'auteur qui a écrit ce texte. Alors c'est pas vrai pour tous les... c'est pas vrai, on peut pas généraliser à tous les romans, mais c'est vrai d'un grand nombre de textes qui sont le reflet, même parodique, hein, quand on fait une parodie finalement, qui sont aussi le reflet des préoccupations.
Je pense que tu as parlé en tant qu'historien, et moi je pense que c'est vrai. Enfin, si les auteurs de science-fiction ont un souci veulent conserver ce souci de un peu prédictif, on peut considérer qu'ils ont erré au début parce qu'ils débutaient dans le métier, mais que on peut espérer qu'en incorporant mieux, et je crois que c'est ce que font les auteurs de science-fiction aujourd'hui, en incorporant mieux la dimension aléatoire du déroulement du futur, mais ça donne du coup des romans beaucoup plus difficiles à écrire et beaucoup plus complexes, et à lire, ajoute Hugo, on peut peut-être, ou en tout cas, je pense que ça c'est aussi la posture philosophique, c'est pas parce qu'on n'a pas réussi à faire quelque chose avant qu'on doit pas de nouveau essayer, en tenant compte des erreurs passées, à construire une représentation théorique qui va être plus efficace dans l'avenir.
En tant qu'écrivain, je ne suis pas sûre que la fonction prédictive de mes histoires soit au cœur de mon problème.
Non, je pense pas que ça concerne tous les auteurs.
Attends, et c'est là que je place ma connerie. Ouais. Parce que, en fait, je sais ce qui arrive à Cassandre, à la fin. Voilà.
Pareil, pas d'accord, mais dans le débat, évidemment. Je pense pas que la science-fiction soit prédictive. Je pense que plus elle essaye d'être prédictive, et plus elle se plante. Hein. Et donc, c'est pas grave de se planter, par contre. Hein. C'est très important, et même dans la recherche philosophique, les erreurs sont très importantes. Mais je pense qu'au contraire, moins l'auteur cherche à structurer, plus il se laisse porter, et là on tombe sur les mystères de l'inspiration, mais plus il se laisse porter par l'inspiration, plus il va faire passer à travers lui, et peut-être malgré lui, et peut-être inconsciemment, l'esprit du temps. Et que finalement, à trop vouloir programmer une prédiction, on risque de finalement livrer quelque chose de complètement illisible, hein, peut-être vain parce que totalement erroné ou très éloigné de ce qui se passera, tandis que si l'auteur est une éponge de l'état des... je vais prononcer... subjectivité collective, de l'état d'une subjectivité d'une société à un moment donné, moins il essaye de le rendre et mieux il le fera. Il y a une certaine... Mais il y a une certaine... Dans l'inspiration, comme ça, il y a des choses qui vont arriver à travers l'auteur sans que lui-même s'en rende compte. Et c'est peut-être ça qui fait la partie la plus pertinente de la science-fiction, peut-être.
Mais je ne pense pas que ce soit antithétique avec ce que j'ai dit, parce que le... Enfin, moi, je ne suis pas écrivain...
Pas d'accord sur la prédiction, oui. Le reste...
Je ne suis pas écrivain de science-fiction, donc je ne fais qu'imaginer dans l'état d'esprit dans lequel peuvent se mettre certains auteurs. Mais je pense que, en tout cas pour certains d'entre eux, il y a vraiment l'idée d'essayer d'imaginer de la façon qui leur paraît le plus vraisemblable possible ce qui pourrait arriver dans 10 ou dans 20 ans. Et ce processus-là peut être artistique au sens que tu le décris. Si c'est cousu de fil blanc et qu'on voit les outils théoriques qu'il a utilisés, c'est sans doute raté.
J'ai l'impression... Là, je ne parle pas pour moi, que ceux qui, en fait, ont ce souci le plus chevillé à l'œuvre, ce sont effectivement les uchroniciens, tels que Hugo ou Roland. Ce ne sont pas les historiens du futur, puisqu'ils ne parlent pas du futur, puisque le monde n'est pas celui dans lequel nous vivons. Mais au final, ils sont dans une démarche qui est réellement d'archives, de collecte de faits, de recherche de points divergents, alors que l'auteur d'anticipation, enfin ceux également que je connais, a moins peur, a moins ce souci a priori, parce que même s'il se trompe, même si ça ne posera pas des problèmes de cohérence dans son univers, alors que l'uchronicien, c'est un souci à chaque page. j'ai ce sentiment-là.
Oui, il y a aussi, moi si je prends ce que j'ai, enfin, par rapport à ce que j'ai fait, il y a aussi la recherche d'une identité en fait. Moi c'était très Tancrède, hein, c'est Uchronie sur la première croisade, c'est très familial aussi. Au sens, pas au sens, parce que c'est aussi un hommage à mon grand-père, mais au sens familial, au sens psychanalytique du terme. C'est-à-dire que je cherchais une identité. Moi, j'ai voulu, j'ai rien voulu démontrer dans Tancrède. Hein. Il n'y a pas de démonstration, il n'y a pas de message, il n'y a pas de. Mais il me semblait être en train d'écrire quelque chose qui pourrait tendre à montrer qu'effectivement, l'Uchronie fait bien partie de la science-fiction. Tu vois, c'est-à-dire, c'est bien un jeu spéculatif qui fait appel aux techniques d'écriture du genre et telles que moi, je les ai découverte au fil de mon parcours, et il y a ce côté identitaire.
Mais évidemment, mais chez Roland aussi. Ça n'est pas.
Chez Roland encore plus, hein, je veux voilà, dire, rêve de gloire.
Roland Wagner. Hein,
voilà, oui, pardon, merci. Roland Wagner. Rêve de gloire, c'est sans doute une merveilleuse introspection par le détour de l'histoire de l'Algérie française. Et on voit toute la richesse que l'Uchronie, jusqu'où peut aller l'Uchronie dans la. Dans l'interpénétration entre le vécu personnel et la perception de l'histoire.
Je vais me permettre de couper un peu le débat afin de voir s'il y a quelques questions dans la salle, puisqu'on s'approche de la fin.
Le micro arrive, mais... voilà. Gardez la main levée pour que le monsieur puisse vous repérer.
Oui, c'était juste pour faire une remarque par rapport à ce que vous dites. Merci aussi pour cette table ronde extrêmement intéressante. Concernant 1984 et la possibilité qu'Orwell ait commis une erreur, je voudrais juste émettre une hypothèse. Orwell avait peut-être raison au moment où il a écrit son livre, et parce qu'il a écrit son livre, il a modifié les consciences, et donc rétroactivement, il a tort, mais en réalité, il a peut-être modifié le futur. C'est un peu le principe des prophètes bibliques, dont une partie des prophéties se réalise, une autre partie se réalise pas forcément, et à la différence des prophètes, des oracles grecs, où plus on essaye de fuir l'oracle, et plus on tombe dedans.
Mais oui. C'est ce que je disais tout à l'heure, on fermait des portes, en fait.
Non, mais enfin,
on peut rêver, effectivement, que ça donne ça. Hein. J'aimerais bien, mais je n'y crois pas. À toi.
Oui, donc, non, en fait, je suis tout à fait d'accord, c'est vrai que, bon... l'exemple de 1984 est celui qui m'est venu à l'esprit, mais c'est évident que par rapport à l'idée générale, c'est pas un bon exemple, puisqu'il y a la dimension dans 1984 de fable d'avertissement. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Juste, je voudrais rebondir sur votre métaphore, parce qu'elle est astucieuse, je pense. On pourrait résumer en disant qu'un bon prophète biblique, c'est un prophète qui dit ce qui va passer, enfin, c'est aussi un peu ton idée, ce qui va se passer. Un bon prophète science-fictionnel, ça serait peut-être un qui dit justement ce qui ne doit pas se passer ou ce qui ne va pas se passer. Donc la vérification se fait dans le sens inverse, en fait. Si ça ne s'est pas passé, c'est qu'il a réussi.
D'autres questions ?
Seigneur Dieu.
Gérard Klein. J'ai pris en route le débat, malheureusement. Alors, mais il y a
plus près, le micro.
Concernant...
On ne t'entend pas, Gérard.
J'ai pris le débat en route, donc Gérard Klein, j'ai pris le débat en route. Donc il y a un mot qui n'a pas été prononcé, qui me paraît très important, soit dans son acception positive ou dans son acception négative, c'est celui de normativité. Énormément d'anticipation, et par exemple celle d'Orwell, font référence à du souhaitable ou à de l'évitable. Hein, je pense par exemple à Robert Heinlein, sans avoir nécessairement beaucoup d'illusions là-dessus, mais décrit souvent du souhaitable, l'avenir tel qu'il l'espère, en sachant très bien que c'est pas comme ça que ça se passera. John Brunner, inversement, dans sa tétralogie cataclysmique, propose une normativité négative. Enfin, il dit, bon, il vaut mieux éviter la surpopulation et tout ce qui s'ensuit dans tout ça dans l'Ibar. Les méfaits d'une mauvaise utilisation de l'informatique sur l'onde de choc, l'écologie, les drames liés à la destruction du milieu dans le troupeau aveugle. Alors, dans le cas du troupeau aveugle, il y a une chose très intéressante, on a parlé d'obsolescence. Mais en un certain sens, le troupeau aveugle est obsolescent puisqu'il n'a pas vu le problème de la montée de la température. Enfin, il n'a pas vu le problème des changements climatiques sous cet angle-là. Il reste que quand on lit aujourd'hui, alors, il dit même des choses monstrueuses de ce point de vue-là, mais il reste que quand on lit aujourd'hui le troupeau aveugle, la problématique d'ensemble demeure intacte, elle demeure essentielle, même si les problèmes locaux ont beaucoup changé d'allure.
Tout à fait d'accord. Effectivement, c'est une distinction qu'on a un petit peu évoquée, mais qu'on n'avait pas aussi bien détaillée. Disons que si on voulait faire un tableau à double entrée, et on pourrait faire beaucoup plus d'entrées avec des tableaux multidimensionnels, mais avec les quelques distinctions qu'on a faites à présent, il y aurait donc déjà un certain nombre de possibles en combinant soit des histoires à long terme, soit des histoires à court terme, d'un côté, et soit plutôt des fables d'avertissement je ne sais pas comment on appelle ça à l'inverse, mais disons des visions plus utopiques du futur. Et je voudrais juste ajouter une chose, je crois que Jeanne voulait aussi rebondir après. Brian Stableford, qui est un auteur donc, de science-fiction britannique, dont j'ai déjà parlé, et donc sa série L'Immortalité se classerait plutôt du côté de Heinlein ou de Banks, c'est-à-dire dans les visions du futur plutôt souhaitable de son point de vue. Mais c'est un avenir souhaitable où on utilise, et là on revient dans mon sujet de recherche, où on utilise des biotechnologies, où les gens sont devenus immortels. Et il explique dans une conférence et dans ses écrits qu'il trouve que la science-fiction a souvent trop tendance à se faire fable d'avertissement, à dépeindre le futur sous des couleurs noires. Alors notamment parce que l'atmosphère est au pessimisme, mais aussi parce que, et je pense que ça se comprend assez bien, parce que c'est aussi une facilité d'écriture, hein, puisque la structure de l'histoire de science-fiction de base, c'est on a ce qu'on appelle un novum, un nouvel objet technologique à partir duquel on va imaginer des conséquences. Et c'est plus facile a priori d'imaginer des conséquences négatives de façon Frankenstein plutôt que d'imaginer des conséquences positives. Voilà, donc lui essaye d'écrire une science-fiction où globalement, et c'est aussi ce que fait Banks, globalement l'avenir est plutôt brillant et où les problèmes se situent aux marges de l'univers plutôt qu'au cœur du projet technologique.
Merci beaucoup à tous. On va laisser la place à une rencontre avec Yves Bosson. Et je ne sais pas si vous êtes en dédicace, puisqu'il va être l'heure du déjeuner. Donc après, je ne sais pas, sans doute cet après-midi.
Merci à toi.